Europe 1. Écoutez le monde changer.
Bonjour, c'est l'été. Et tous les jours, vous le savez, nous allons donc partir ensemble, très très loin, dans les plus beaux endroits de la planète, et en France aussi. Pas besoin de faire des heures d'avion pour voir des merveilles, hein, il faut bien le souligner. Tous les jours, pendant 2 heures, on ouvre les fenêtres, on lâche prise, on rêve. C'est parti.
16h, 18h.
Et si on partait ?
Philippe Googler.
Alors aujourd'hui, deux destinations que je porte très très haut dans ma top list. Tout à l'heure, après 17h, c'est carrément à mes yeux le voyage d'une vie, je vous le promets. Pour moi, il fait partie des 4-5 grands voyages les plus bouleversants qui soient en termes de paysage, le Groenland. Et puis, en première heure, là tout de suite, là c'est la région de mon cœur, c'est celle où je suis né, donc c'est, j'aime autant vous le dire, et il n'y a aucune contestation possible, c'est la plus belle, c'est la Franche-Comté. Elle est toute modeste, la Franche-Comté, mais en fait, elle ne sait pas combien elle est belle. Pour la partie montagne, c'est des paysages purs, des montagnes vertes, d'un vert incroyable, presque fluo. C'est lumineux, c'est rafraîchissant, c'est paisible. On entend juste des fois au loin le son des vaches, les petites cloches comme ça qui apaisent. Et puis des habitants plutôt humbles, plutôt modestes, tranquilles, mais qui savent bien qu'ils habitent dans un endroit merveilleux. On va découvrir tout ça ensemble avec toute la bande de joyeux voyageurs. Jean Bernard, qui nous vient du guide Lonely Planet. La Franche-Comté, c'est assez étonnant, mais moi quand j'en parle aux gens, des fois je vois leur regard qui baisse un peu, un petit raclement de gorge. En fait, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas où c'est.
Alors j'ai envie de dire à l'est toute, voilà, parce que la Franche-Comté, elle est bordée à sa droite, elle est frontalière avec la Suisse. Donc ouais. Déjà, ça permet un petit peu de positionner. Au nord, il y a l'Alsace et les Vosges. Ouais. Au sud, la vallée du Rhône avec Lyon et le massif des Alpes. Mmh. Et puis, j'aime bien aussi les départements. Alors, on va un petit peu parler des départements qui composent la Franche-Comté. Je fais un petit tour de table. Allez, le 90.
Territoire de Belfort.
Bien joué. Le 39.
Bon, je le prends, celui-là. Le Jura.
Le 25.
Bon, je le dis, mais je le sais par cœur. J'y suis né, c'est le Doubs.
Ouf, donc il faudra qu'on fasse attention quand on parlera du Doubs. Et il en reste un, c'est le 70, je vais le dire, c'est la Haute-Saône. Voilà les 4 départements qui composent cette très belle région où est dominant la nature, comme vous l'avez dit.
La nature, le vert, le repos, la tranquillité. Nathalie, on a quelques personnages célèbres quand même à la maison.
Ah oui, il y en a pas mal même en Franche-Comté. Par exemple, si je vous dis Rouget de Lille, qu'est-ce que ça évoque pour vous ?
Eh bien,
une Marseillaise. Marseillaise.
Ouais, mais il n'était pas du tout Marseillais, il était franc-comtois. Alors, il est né, à Lons-le-Saunier dans le Jura.
Est-ce que vous vous rendez compte, toutes et tous, que chaque fois que vous chantez la Marseillaise, vous chantez une chanson franc-comtoise ?
Eh oui. Et là, on est censé se lever.
Alors, qu'est-ce que vous nous avez des côtés d'autres ?
Victor Hugo quand même, l'immense, le génial Victor Hugo qui est né à Besançon, au pied de la majestueuse citadelle. Ouais. Alors, il n'a fait qu'y naître, autant vous le dire tout de suite. Il n'est pas resté longtemps en Franche-Comté, mais tout de même, c'est une gloire locale. Vous avez aussi quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'il a fait du scandale à son époque. C'est le peintre Gustave Courbet.
Oui.
Alors, vous savez, ce fameux tableau qui est exposé au musée d'Orsay, c'est un nu peut-être le plus célèbre du monde. D'ailleurs, il s'appelle L'origine du monde. Pourquoi ? Parce qu'on voit un gros plan, un focus sur le sexe d'une femme qui a été identifiée plus tard. C'était la maîtresse de ce peintre scandaleux.
Ah, c'était sa maîtresse ?
Oui, elle s'appelait Constance Quaigneau. Il a fait scandale, évidemment.
Elle était évidemment.
Pas pudique ? On voyait pas sa tête. Tout se passe bien. Tout se passe très bien.
J'aime beaucoup la notion de la pudeur selon Nathalie. Est là.
C'est mes limites géographiques à moi, Philippe. Comment vous dire ? J'en ai un autre aussi en Franche-Comté que j'adore. C'est Louis Pasteur quand même.
Oui.
La fermentation. Le travail sur la pasteurisation du vin, ça
notamment.
Parle à notre ami
notamment.
Olivier Pouls, bien sûr.
Olivier, qu'est-ce qu'on mange là-bas ? C'est une région merveilleuse.
C'est évidemment encore un pays de coquin pour la gastronomie. C'est pas vous qui allez me démentir. J'imagine que vous avez été. Vos papilles ont été bercées aux croûtes de Maury.
Aux croûtes au Maury. Vous voyez, on voit qu'on n'est pas du même coin.
La
croûte au Maury.
Peut-être un petit comté pour accompagner ça juste après.
Un comté délicieux avec un petit
bien
grain
sûr.
De sel là, qui est fabuleux. Et puis une petite cancoyotte.
La cancoyotte fromage. Délicieux, crémeux, mais très peu calorique et très peu gras. C'est le fromage le moins calorique de France.
Ah, c'est bon, on peut y aller.
Et puis le tout arrosé de vin jaune, bien évidemment. Vin très particulier au goût unique, dont on parlera tout à l'heure. Et vais essayer de vous en révéler tous les secrets.
Ouais, le vin jaune, moi, j'adore ça. Il y en a qui n'aiment pas. Je sais pas, j'ai toujours du mal à le servir aux invités. Des fois, ça renacle un peu. Mais le goût de noix est juste merveilleux.
Bah, je vous en sers un petit verre tout à l'heure,
oui,
si vous voulez.
Bon, bah, vous me le gardez. Discrètement. D'accord. Et puis, puisque nous sommes sur Europe 1 en train de parler de la Franche-Comté, nous recevrons Guillaume Aldebert. Guillaume Aldebert, c'est un auteur, compositeur, interprète que vous connaissez, énorme succès auprès des enfants et des familles. Il est à l'origine d'Enfantillage, que vous connaissez sans doute. Et il a eu une chance énorme dans la vie, c'est que ses parents parisiens ont voulu que son fils grandisse à la campagne. Et sa vie a basculé puisqu'ils ont choisi la Franche-Comté. Et c'est l'événement le plus heureux de sa vie. Il nous racontera ça dans un instant.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Et si on partait sur Europe 1 tous les jours, 2 heures de voyage, sans contraintes, sans restrictions, sans frontières, rien. 2 heures juste pour le plaisir de s'évader. Après 17 heures, je vous emmènerai dans le monde du froid, de la glace, avec des paysages incroyables, le Groenland. Et là, tout de suite, maintenant, nous sommes donc en Franche-Comté, avec cet heureux homme dont les parents parisiens ont pris la sage décision de vouloir l'élever au vert, en Franche-Comté, Guillaume Aldebert. Bonjour.
Bonjour.
Je suis heureux d'avoir un franc-comtois à table, parce qu'on est assez rare comme espèce, les franc-comtois. Donc, quand on se retrouve, on se préserve.
C'est rare de faire de la promo radio avec une bouteille. Là, alors les auditeurs ne le savent pas, mais il y a une bouteille à côté de nous.
Mais il y a du jus de pomme dedans, en fait.
Non, oui, évidemment. Ça, c'est pour tout à l'heure.
Pour tout à l'heure.
Si tout va bien.
Ouais. Tout le monde ne parle que de la bouteille, mais les gens sont obsédés dans cette émission. C'est pas possible.
Mais merci de m'accueillir, en tout cas.
Avec plaisir. Et est-ce que vos parents vous ont fait grandir, j'espère, près du verre, près d'une forêt ?
Complètement. Ils sont venus en Franche-Comté un peu par hasard, en fait. C'est-à-dire que mon père, qui était dessinateur maquettiste, cherchait du boulot.
Ouais.
Ils étaient à Paris, ils adoraient Paris, ils adorent toujours Paris. Mais bon, voilà, il s'est trouvé qu'il fallait qu'il trouve du boulot un peu ailleurs. Moi, j'arrivais, j'avais, je crois, 3 ans quand j'ai débarqué en Franche-Comté.
Ouais.
Et ils avaient cette envie, quoi, voilà, de pas me voir en citadin total. Et ils avaient envie de se mettre au vert.
Est-ce que vous avez profité du vert quand vous étiez enfant ? Vous aviez des cabanes ? Vous aviez comment
complètement, j'étais une espèce de Tom Sawyer franc-comtois.
Ah bon ?
Ah oui, bon, j'ai enchaîné les cabanes dans les arbres et tout. J'avais la chance d'avoir... J'ai grandi dans un petit appartement, un petit immeuble qui était à côté d'une forêt. On parlait des vallons tout à l'heure, donc c'est vraiment le paysage que j'ai en tête quand j'évoque la Franche-Comté. C'est vraiment des petites collines.
Mmh.
Donc c'est chouette parce qu'on peut se balader. Il y a du relief, pas trop et suffisamment. Donc c'est vraiment un équilibre qui, moi, me plaît beaucoup, en fait.
C'est vrai, c'est de la montagne assez douce. Bon, quoique dans le Haut-Doubs, dans le Jura, ça grimpe quand même pas mal.
Ça commence après.
Mais on n'est pas sur du pic acéré. Donc on est à la fois dans le splendide, parce que c'est élevé, il y a du relief, il y a du vert, il y a des arbres, mais en même temps, on n'est pas dans l'épuisant.
C'est plus du ski de fond que du ski de descente, quand même.
C'est plus du ski de fond.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
C'est ça.
Il faut aller à peine plus loin pour commencer à attaquer dans le dur, quoi, au niveau alpin, quoi.
Ouais. Nathalie ?
Non. J'ai écouté religieusement parce que c'est vrai que je l'avoue, j'ai mis les pieds une seule fois en Franche-Comté et ça manque à mon petit patrimoine personnel.
Eh bien, on n'y pense pas. C'est vrai. Hein. C'est une région qui est très préservée d'un point de vue touristique. Il y a des hôtels adorable, on en parlera tout à l'heure, pas trop cher, on y mange bien, mais allons en Franche-Comté, bon sang.
Allons en Franche-Comté, et surtout il y a une sérénité, une espèce de calme qui est difficile à décrire. Un calme déjà dans les paysages et dans les forêts de sapins dans le Haut-Doubs, vous savez, c'est des grandes lignes droites qui se dirigent vers le ciel, alignées comme ça, et il y a une espèce de calme là-dedans, à côté, comme ils se dirigent vers le ciel, c'est comme une cathédrale. Et à
oui,
l'intérieur.
Je confirme.
Et c'est une ambiance tout à fait unique. C'est une région qui est propice à la sérénité, y compris entre les gens. Vous trouvez pas, Guillaume ?
Oui, c'est vrai. Après, il y a toujours ce, comme on l'évoquait tout à l'heure, un problème d'identification, en fait, de localisation. C'est marrant, quoi. Moi, je le sens beaucoup parce que quand je me promène un peu partout, en France, en Suisse et en Belgique essentiellement, et on parle de Franche-Comté, les gens ont du mal à situer.
Ouais.
Donc voilà, on a. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment il y a une sérénité. Vous l'avez dit, il y a un truc très très posé, presque parfois méditatif dans les paysages qui moi me plaît beaucoup et me nourrit aussi.
Alors je sais que vous avez fait beaucoup de sport dans cette région et que vous alliez dans un site que je connais un petit peu qui effectivement est très impressionné, qui s'appelle les Échelles de la Mort.
Ouais. Oui, parce que j'étais au collège, j'ai démarré un peu l'escalade et tous les sports un peu alpins, tout ça. Et on avait un petit club au collège qui s'appelait le GAG, le Gang des Allumés de la Grimpe.
Le voilà. Gag, je le gang, de ça, c'était au des allumés de la
tout
carte.
Tout un programme.
C'était il y a longtemps. Et du coup, voilà, grâce à ce club, en fait, j'ai pu visiter un peu les sites. Il y a les échelles de la mort, il y a Ornan, les falaises et tout ouais. ça. Les échelles de la mort, j'ai découvert un peu plus tard avec ma femme, parce qu'on s'est vraiment pris de passion pour la Via Ferrata, vous savez, ces parcours comme ça, et avec ces falaises équipées.
Pourquoi ça s'appelle les échelles de la mort ?
Alors, parce que c'est la frontière naturelle avec la Suisse et qu'il y avait des gens qui passaient des marchandises en Suisse ou qui passaient même carrément des gens en temps de guerre, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'était un vrai spot, en fait, de trafic.
Mais parce que c'est très élevé, il y a des échelles, vraiment.
Voilà, ils avaient construit des échelles en bois. C'était hyper dangereux, évidemment. Aujourd'hui, on peut visiter ce site parce que c'est équipé en échelles en dur, quoi, en acier. C'est complètement safe. Et au-dessus, il y a la Via Ferrata, donc qui surplombe ces gorges et tout. Et c'est hyper beau et c'est un site que j'aime bien. Ouais.
C'est une super balade. On peut la faire aujourd'hui, effectivement, en toute sécurité, parce que les échelles sont attachées aux parois, aux falaises qui sont abruptes. Mais oui. C'est vrai qu'autrefois, elles n'étaient pas attachées. Donc ça tombait, ça bougeait, c'était très dangereux.
Ouais.
Et alors, il y a un autre truc aussi, grand sujet en Franche-Comté, c'est la météo.
Ah! Aïe, aïe, aïe.
Je crois que c'est dans tout le Grand Est, ça.
Hein. Ouais, ouais.
Nathalie ? Oui, il y a une chose que je sais, c'est que c'est là-bas qu'on trouve la commune la plus froide de France qui s'appelle Mout. Alors sortez votre moumoute pour aller à Mout. Elle était facile.
Sortez votre moumoute pour aller à Mout.
Elle était facile, celle-là. Non, c'est vrai qu'il y a des températures extrêmes. C'est une zone qu'on surnomme même la petite Sibérie.
Ouais.
On a enregistré jusqu'à moins 36 degrés. Bon, ça, c'était en 1968. Enfin, quand même. Et je sais qu'on peut s'y balader avec des chiens de traîneau, vous savez, ces magnifiques huskies. Vous avez déjà fait ça, Guillaume ?
Le Groenland, c'est pour l'heure d'après.
Oui,
hein.
Je sais, mais je tentais une proximité, là, un petit rapprochement.
Ouais, ouais, il y a un peu ça. Moi, quand vous parlez de Mout, je pense aux classes de neige, en fait, parce que c'était là qu'on nous envoyait. Je te préviens, si tu ne travailles pas, tu vas aller à Mout. Non, ce n'était pas ça, mais voilà, moi, c'est des super souvenirs, en fait. Mout, il y a plein de ski alpin à faire, de fromagerie à visiter. Mais par contre, ouais, le soir, je me souviens qu'avec mes copains, quand on faisait les veillées en pyjama et qu'on allait faire pipi dehors,
ça gelait. Ça gelait.
Au bac, presque, ouais.
Et alors, on parle du froid, mais il fait aussi très chaud en Franche-Comté.
Oui, c'est très chaud. C'est ça le problème.
Il y a des contrastes extrêmement forts. On peut passer à plus de 30, hein, facile. Et les contrastes, des fois, sont un peu violents.
C'est assez violent, ouais.
Ouais. C'est assez étonnant.
Même sans aller à Mout, hein, rien qu'autour de Besançon, à Besançon, c'est un peu ça aussi. Moi, ouais. J'aime bien, en fait, parce que c'est ce que j'aime aussi, finalement, parce que c'est contrasté. Et que voilà, moi je pourrais pas vivre à Montpellier parce qu'il fait toujours beau. Et du coup, je trouve que c'est un peu. Voilà, j'aime bien que ça change. Bon. C'est-à-dire que quand le soleil arrive, on est vraiment content et on en profite à fond.
Alors, il y a un sujet dont moi je voudrais absolument parler à propos de la Franche-Comté, c'est de l'accent. Parce que l'accent franc-comtois, c'est quelque chose. Moi je trouve que c'est savoureux, que c'est drôle. Et surtout, au-delà de l'accent, il y a un humour incroyable derrière les expressions des franc-comtois.
Vous savez le faire, l'accent ?
Mais en fait, j'ai passé des années à le perdre et je m'en veux parce que j'ai du mal à le faire.
Non. Vous ne l'avez pas du tout, ouais.
Mais ouais. En fait, je sais que c'est sur les où, par exemple, vous n'allez pas faire du vélo, vous allez faire du vélo.
Le vélo, ouais.
Faire du vélo.
Ah, c'est génial.
Et moi, on m'a appris à me départager.
On est à la radio.
Oh, bah, c'est vrai.
Alors, quand j'étais emploi jeune, en fait, à Nézé-les-Granges, un petit village au début du Houdou, en fait, et que je commençais à faire un peu de radio, un peu de promo, il y avait un petit garçon qui s'appelait Alexandre qui me disait « Je t'ai entendu au poste ». Ça voulait dire, je t'entendais à la radio. Et
moi, j'ai appris à ne plus prononcer les E à la franc-comtoise, parce qu'en Franche-Comté, on dit Catherine Deneuve. Et c'est en m'entraînant sur Catherine Deneuve que j'ai dit Catherine Deneuve. Mais j'ai mis des années, des
Vous
années.
Vous êtes entraîné sur Catherine Deneuve.
Oui, mais
c'est un scoop.
Nathalie, voyons.
Mais oui, excusez-moi.
Ça fait partie des exercices de diction. Et pour quitter l'accent, c'est un petit manuel comme ça.
Alors, je voudrais vous dire que nous avons au téléphone quelqu'un que j'adore, qui s'appelle Lola Semonin. Elle est comédienne, elle est auteure, elle a inventé le personnage d'une paysanne du Haut-Doubs qui est fantastique, qui s'appelle la Madeleine Proust. Bonjour Lola.
Oui, bonjour. Bonjour à vous.
Comment ça va, Lola?
Oui, vous me faites penser qu'on dit que les Parisiens qui s'arrêtent en Franche-Comté, c'est ceux qui n'ont pas les moyens d'aller en Suisse.
Non, c'est terrible, ça.
Ben, c'est ça, mes parents n'ont pas les moyens d'aller en Suisse, en fait. Soit arrêtés là, dick.
Alors, Lola, il faut quand même que je dise que la Madeleine Proust, ce personnage incroyable que vous avez joué plus de 30 ans, est un personnage formidable. Elle utilise les expressions, les accents franc-comtois. Et c'est ça a été un spectacle merveilleux. Vous l'avez donné à l'Olympia, ça a fait...
J'en ai fait 5 de spectacles.
Ouais.
Il y en a eu cinq.
Et ce personnage, j'adore quand... Je voudrais que vous me le fassiez, parce qu'à chaque fois, ça me fait hurler de rire. J'adore quand il dit « c'est pas vrai ». Est-ce que vous pouvez me faire un « c'est pas vrai »
à la Franck-Comtois ? Oh, mais c'est pas vrai, mais Philippe, m'arrête de voir, va. S'il est gentil, Philippe. Oh, ben, comme il est de chez nous, hein, alors il nous comprend bien. Il est simple, et puis pas fier. Puis il porte à l'aimer. Voilà, je t'ai fait un filet garni, là.
Ah bah là, on est au fin, au gras, ouais.
Alors, ce qui est super, c'est qu'avec cet accent, avec Guillaume, vous avez fait un disque.
Oui.
Vous m'en dites un mot, puis on écoute un extrait.
Alors, bah, un jour, Guillaume, il me dit « Tiens, j'ai écrit un rap sur la Franche-Comté, qu'est-ce que t'en penses ?» Et puis, je lis ce texte, puis c'était vraiment extraordinaire, parce que c'était un hymne à la Franche-Comté, quoi, de tout ce qu'on peut inventer.
On l'écoute tout
donc,
de suite, Lola.
Voilà, après, il a fait la musique, et on l'a enregistré.
On l'écoute tout de suite, Lola.
Ouais, je grand, ça va bien.
Oh bah ma foi, ça va.
Ça va bien. Bienvenue dans le 2-5, man. Spécial dédicace à la Chaux-de-Fonds, Pierre Fontaine, les Varans, groupe de poudre et source du Lison. À tous les francs-comtois, ouvrez grand vos oreilles, tchatch en direct de Bonnevent vers l'oreille. Pour une spéciale freestyle au bord du Doubs. T'es prêt, grand? Écoute ça, monsieur Victor Hugo, je suis peut-être pas un frère Lumière. Mais c'est quoi?
Ça, c'est du franc-comtois, premier choix. On y va.
Roule tout doux dans le 2-5, tout le monde debout sur le zinc. Roule tout doux dans le 2-5, lève ton verre et trinque. Bienvenue dans la cité, du comté et du vin blanc. Ici, tout le monde a droit de citer dans le vivier des bons vivants. Si tu viens du Jura, audit territoire de Belfort, gloire à celui qui percera les secrets de la saucisse de Tomor. Tomor. Roule tout doux dans le 2-5, tout le monde debout sur le zinc. Roule tout doux dans le 2-5, lève ton verre et trinque. Mais tu sais d'où on vient, nous? Du 2-5. Où ça? Du 2-5.
Il est bouché ou bien?
Je vous parlais d'Don Quichotte, car le fromage est l'avenir. Pour faire une bonne concoyote, il faut du méton qui déchire.
Voilà, le rap du 2-5, c'est pas mal ça. Et alors, moi je trouve, Lola, qu'au-delà de l'accent franc-comtois, il y a les expressions. Et je trouve qu'il y a une poésie derrière ces expressions qui est fabuleuse. Parce que les franc-comtois sont plutôt modestes, plutôt humbles, mais quand ils sortent leurs expressions, alors là, on comprend tout leur humour. Vous en auriez une ou deux à nous servir?
Oui, c'est vrai déjà. C'est vrai que je me rappelle quand j'étais instite dans un petit village, le voisin en face, je lui dis « Oh, il fait beau !» Il me fait « Oh, puis c'est parti pour rester !» Donc ça, c'est pas magnifique. Vraiment une connotation franc-comtoise, mais ils ont un naturel à dire les choses. Alors bon, l'expression qui interloque le plus les gens qui arrivent en Franche-Comté, c'est la pelachnie. Hein.
La pelachnie.
La pelachnie.
Qu'est-ce que c'est alors, la pelachnie?
Un petit balai, la petite balayette avec la mini pelle pour ramasser les poussières par terre.
Voilà, voilà, il y a une phrase culte de la Madeleine Proust. Oh, elle est foutue cette pelachnie, il faut que j'y fasse mettre une queue. C'est la pelachnie. Puis alors, il y avait mon fils, il était parti à Paris, habiter avec son papa quand il avait 11 ans. Puis un jour, on m'appelle, puis il me dit, mais on a bien meilleur temps. Ouais. C'est franc-comtois? Puis moi, je dis, je sais pas, je crois pas. Il me dit, mes copains ne me comprennent pas. Il faut dire quoi? Je dis, je sais pas, on a bien meilleur temps. On a bien meilleur temps, quoi. Il a dit, t'as raison, je vais leur dire, on a bien meilleur temps.
Mais on a bien meilleur temps, il faut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire, il vaut mieux que.
Il vaut mieux que. Ah, voilà, mais on a bien meilleur temps, c'est quand même mieux qu'il vaut mieux que.
On a bien meilleur temps d'écouter la radio plutôt que la télévision.
Ouais, ça veut pas dire qu'il y a plus de soleil. Quoi.
Non. Pas du...
on a bien meilleur temps d'être franc-comtois que d'être bourguignon.
Attention.
Alors, quand je m'amusais à relever les mots, quand je construisais mon personnage, je m'apercevais que non seulement il y avait les mots typiques de Franche-Comté, comme la taugnée, on va lui mettre une taugnée à ce gosse. Oh, arrête de voir d'arguigner ton frère, toi.
Ça, c'est
tu vas prendre une taugnée. Mais il y a aussi les mots qu'ils inventent. Mm-hmm. C'est comme dans les banlieues, les mots sont réinventés sans arrêt. Ils s'approprient la langue. Ils disent, oh, t'es pas dégéné, toi.
Dégéné?
Ah oui, c'est pas. Gêné, dégêné.
Ah, pas gêné, ouais, d'accord, ok.
Oh, hier, il était plein, ce matin, il n'a pas des plaintes.
C'est très imagé.
Ça sonne super.
Ça sonne merveilleusement, mais c'est de la poésie.
Encore... Et il y a quelque chose de beau, moi, évidemment, quand j'écris mes romans là, sur la vie de la Madeleine Proust, puisqu'il y a déjà deux tomes de sortie, La Madeleine Proust, une vie, j'en parle, parce que je suis en train de terminer le troisième tome, et il y a des. j'adore ponctuer comme ça cette langue de ces mots si vivants qui viennent la colorier, qui font qu'on entend la voix de la Madeleine. Ouais. Quand on me lit, et il y a un mot là qui veut dire qu'on a le cafard, c'est « je dédeviens ».
Ah oui.
Wow.
C'est quelqu'un qui m'a sorti ça l'autre jour, « je dédeviens ».
Je dédeviens, oh, mais c'est philosophique.
Oh, ben ma foi, moi je me souhaite encore une année de bonne, puis après je pense que ça suffira, il y en a un qui me dit autre chose. Je trouve qu'il y a une philosophie aussi là derrière. Ah oui, puis il y a quelque chose qui est très typique aussi, c'est on y est allé toutes seules les deux, la Simone.
Ah oui.
Oui, oui, toutes seules les deux. Oui, oui, oui.
Tout seul les deux.
Ouais. Mais c'est voilà, très par dur. Exemple, au Maury, on y est allé tout seul les deux, le Philippe.
Oui, mais y aller tout seul les deux, c'est très dur à expliquer en français.
C'est, là, c'est compliqué, là.
Y aller tout seul les deux, ça veut dire y aller à deux, mais personne d'autre.
Ouais. C'est voilà, ça. Et chacun tout seul avec l'autre. Voilà. Chacun tout seul avec l'autre.
Ah, et alors... pas y aller tout seul les trois.
Non, ça se fait pas.
Non, non, non. C'est interdit, ça.
C'est interdit. Juste une toute petite dernière avant de se quitter, Lola, pour le plaisir. Une petite dernière expression.
Alors il y a la lampe. Il y a la lampe qui claire là à côté.
Ah, ouais, la lampe qui claire.
Il y en a une que
j'aime
beaucoup.
Et puis il y a aussi plus à la seille. Hein, parce que la seille, c'était le baquet.
Il y en a une que j'aime beaucoup.
Il pleut à la seille, il va être tout gaugé, tout trempé mouillé.
Trempé mouillé.
Rentrez les gosses, rentrez voir.
non, mais c'est une langue et c'est infini. On raconte des histoires comme ça toute la soirée. Et finalement, l'histoire souvent n'a pas d'importance. C'est la façon dont on la raconte et toutes ces expressions imagées. C'est vraiment très, très poétique. Merci beaucoup.
Exactement, oui. Et la jubilation avec lesquelles les anciens d'ici aiment raconter leur vie, quoi. Ouais.
Merci
c'est
beaucoup,
ce que
Lola.
J'essaie de faire avec la Madeleine. Merci, Philippe.
À très bientôt.
Bonne route, Aldebert.
Salut, Lola.
Je vous embrasse.
Au revoir. Et Lola, donc, qui, comme elle l'a indiqué, est en train d'écrire le troisième tome de sa trilogie, La Madeleine Proust, Une vie chez Pygmalion. Dans un instant, on continue à s'enfoncer plus profond encore dans les délices et les joies de la Franche-Comté sur Europe 1, avant de partir, bien sûr, tout à l'heure à 17h pour le Groenland.
Europe 1. Et si on partait, Philippe Googler.
Et si on partait tous les jours sur Europe 1, 2h au bout du monde, de 17h à 18h. Tout à l'heure, ce sera le Groenland. Mais tout de suite, tout simplement, la plus belle région de France. Il n'y a pas d'équivalent. Je le dis en toute modestie, voilà. parce que c'est mon pays.
En toute objectivité.
En toute objectivité, avec tous mes camarades voyageurs. Et le Franc-Comtois est très sympa, mais à cheval sur l'horaire. Nathalie Elal, grande voyageuse, auteure et fouineuse de bonnes affaires. De bonnes affaires.
aussi.
Si vous voulez. Pourquoi je dis ça? Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça.
Mais j'adore les brocantes, cela dit.
Donc, fouineuse de bonnes affaires.
Oui, si vous voulez, ça me va aussi.
On va parler du temps.
Oui, alors en Franche-Comté, c'est vrai qu'on maîtrise le temps. Hein. Vous entendez cette petite musique comme ça de l'horloge franc-comtoise. Il y a aussi le coucou, hein, mais c'est plus suisse. Mais
plus suisse.
On en fabrique aussi là-bas. Hein.
Ah, oui, mais
on
c'est en pas fabrique chez nous. Chez vous. C'est pas chez nous. Nous, c'est l'horloge comtoise.
Oui, excusez-moi, Philippe, ça c'est
ne
un crime de
lèse-Googler.
Attention. C'est vrai que Besançon, ça a été pendant 2 siècles la capitale mondiale de l'horlogerie. On y a fabriqué jusqu'à 90% des montres françaises à la fin du 19e siècle. Mmh. Et oui, alors pourquoi tout cela, me direz-vous? Tout simplement parce que à la fin du 18e siècle, il y a eu beaucoup, beaucoup de chômage dans l'industrie horlogère suisse. Donc, les horlogers suisses franchissaient la frontière qui était beaucoup plus poreuse à l'époque. Ils s'installaient à Besançon et ils ont contribué à fonder la manufacture française d'horlogerie à Besançon.
Ce qui est assez étonnant parce qu'aujourd'hui, c'est le sens inverse. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de Franc-Comtois qui vont travailler en Suisse.
Comme quoi, un éternel balancier de l'histoire. Alors en tout cas, la greffe est réussie, si on peut dire, puisque l'industrie horlogère byzantine s'est imposée dans les expositions universelles de la fin du siècle. Mmh. On a même fondé une école d'horlogerie en 1862. Et puis, on peut encore visiter un magnifique musée du temps qui est abrité dans le palais Grandvel, qui est un édifice Renaissance absolument incroyable de Besançon. On y rencontre aussi à Besançon, dans la cathédrale Saint-Jean, une horloge astronomique qui est composée de 30 000 pièces mécaniques. C'est incroyable
à
voir.
Moi, j'étais impressionné quand j'étais petit que j'allais voir cette horloge. Mes parents me présentaient ça comme la perfection absolue. Ça paraissait inaccessible.
C'est pour ça que vous avez l'horloge dans le ventre.
Oh, drôle d'expression.
Oui, l'horloge dans le ventre, qu'est-ce que ça veut dire?
Je sais pas, vous n'avez pas un petit truc à grignoter généralement à côté de vous, Philippe? Je balance. Hein.
Ne balancez pas mes secrets, s'il vous plaît.
Non, je peux pas.
Saint-Claude.
Oui, la pipe. La pipe. Oui, alors là, je vous emmène chez les moines de Saint-Claude. Ils étaient des artisans tourneurs sur bois réputés depuis le 7e siècle. Ils fabriquaient toutes sortes d'objets, puis ils sont devenus, si vous me passez l'expression bien sûr, les rois de la pipe. Oui, alors.
Ah bah c'était sûr.
Vous traitez les moines de rois de la pipe.
Oui, les rois de la pipe. Alors bien sûr, en tout bien,
pour avoir
tout
des
honneur.
Ennuis, vous savez.
Non. Ils ont fabriqué, parce que le tabac est arrivé en France, le tabac à fumer, hein, pas à priser. Ouais. D'abord, il y a eu les tabatières, c'est vrai, c'était le tabac à priser. Ensuite, c'était le tabac à fumer. Il fallait bien fabriquer des pipes. Ouais. Donc, les moines avaient un vrai savoir-faire. Ils ont d'ailleurs formé plein d'artisans. Et puis, ils ont fait des pipes en buis, qui était le bois local. Et ensuite, ils ont changé pour du bois de bruyère, parce que le buis donne un goût très âcre à la fumée.
Ah, et la pipe de Saint-Claude existe toujours, hein?
Oui. Absolument.
Mais oui.
La pipe de Saint-Claude existe toujours. Il y a un très joli musée, d'ailleurs, là-bas, de la pipe et du diamant. Mais ils ne sont pas taillés de la même façon.
D'accord. Et on fume avec modération, évidemment.
Évidemment. Évidemment.
Même voire pas du tout. Hein. Le vin, on accepte avec modération. Je pense que le tabac, c'est même pas du tout.
Pas du tout.
On peut avoir des belles pipes chez soi, mais on ne s'en sert pas, quoi.
Très bien. Merci pour ce message de rigueur et de discipline, Olivier. La Franche-Comté est aussi le pays des miracles, et ça, on ne le sait pas trop.
Ah non, ça, c'est quelque
c'est
chose...
C'est une sorte de lourde cachet.
Oui, c'est ça. Il y a une grotte qui s'appelle la grotte de Remonneau, qui est située près de la commune de Morteau, dans le Doubs. Et c'est un site qui est dédié à la Vierge, avec une eau de source au fond de la grotte, qui permettrait de recouvrer la vue normale si on a de la peau de saucisse de Morteau dans l'œil. Me direz-vous.
Peau de saucisse dans l'œil.
À quoi ça ressemble?
Mais comment vous pouvez vous retrouver avec de la peau de saucisse dans l'œil?
C'est une expression consacrée. Toujours est-il que l'Église catholique a réellement reconnu quelques miracles de gens qui ont retrouvé vue après s'être lavé les yeux avec l'eau de la grotte de Remonneau.
Et je peux vous dire que pour y être allé il n'y a pas très longtemps, parce que j'ai de la famille dans le coin, il y a toujours des gens qui vont passer de l'eau sur leurs yeux. Et quand vous discutez avec eux, ils vous disent avoir guéri. Alors après, bon, on y croit pas, c'est tout un débat, mais c'est vrai que c'est très troublant.
Moi, je vais plutôt à Morteau, mais ça guérit aussi. Autre chose.
Ça guérit de quoi?
Une bonne saucisse de Morteau, je vous garantis que ça guérit de tout, pratiquement.
Et vous savez quel est le slogan publicitaire de la saucisse de Morteau?
Là, non.
20 cm de plaisir.
Ah oui,
ah, ouais. Il fallait le faire, celle-là.
Il y a des Franc-comtois qui vous sont chers, Nathalie?
Ah oui, il y en a un en particulier, c'est Fantômas. Alors Fantômas, évidemment, le vrai, peut-on dire, le vrai Fantômas, il s'appelait Charles Jude, il était
Fantômas.
Oui, vous allez voir pourquoi. C'est un petit clin d'œil pour vous, justement, Philippe, vous qui adorez les trains, c'est bien connu. Alors Charles Jude était originaire de Bourgogne, né en 1834, on le surnommait le tueur du Paris-Mulhouse. C'est vraiment la légende du chemin de fer. C'était un maître dans l'art du déguisement, il se mettait des perruques, enfin toutes sortes de choses, il se grimait et puis surtout il s'arrangeait pour être enfermé dans un wagon de première classe avec ses victimes qu'il trucidait et ensuite qu'il dépouillait. Il était vraiment insaisissable. Il paraît qu'à l'époque, les plus fins limiers de France étaient sur les dents à cause de ses apparitions. On ne l'a jamais vraiment retrouvé d'ailleurs.
Incroyable, je ne savais pas ça.
Si vous prenez un train prochainement entre Paris et Mulhouse.
Incroyable. Alors on a parlé donc histoire, paysage, accent. Il nous reste le meilleur pour la fin maintenant. C'est un pays de bonne table, la Franche-Comté. On y mange bien et beaucoup, et ça on le sait pas assez. Feu d'artifice de bonnes choses, juste après ça.
16h, 18h. Et si on partait? Philippe Googler.
Bref, les courses, c'est long, c'est chiant. Comté, Pontoyotte, Morbier, Mont-d'Or, La Morteau, La Montbéliard et sans oublier le meilleur. Macvin, Savagnin, Chardonnay, Pontarlier. Bref, j'y viens de Franche-Comté et je compte bien y rester.
Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est les cours d'une franc-comtoise.
Oui, mais c'est pas mal comme programme.
En fait,
moi,
c'est
ça
pas
va
mal.
Bien, hein.
C'est sympa. Je m'attendais pas à ça.
Bah écoutez, il y a une liste sympathique quand
mais
même.
Il y a la bonne liste, il y a presque tout. On est avec Olivier Pouls pour parler de cette Franche-Comté merveilleuse côté gastronomique. C'est merveilleux, on mange mais vraiment de très très bonnes choses. C'est parfois un peu lourd.
Hier on était dans le Périgord, aujourd'hui en Franche-Comté. J'espère qu'on va pouvoir baisser un peu en rythme de calories au fil de la semaine, parce qu'on va finir avec plus 4 kilos vendredi. C'est vrai que c'est encore une de ces régions un peu rudes, hein, avec ces climats, ces vides montagnardes. On a besoin de prendre des forces, on a besoin d'avaler un peu de calories.
Guillaume, qu'est-ce que vous, votre plat préféré en Franche-Comté, Guillaume Aldebert?
C'est un des plats les plus simples à réaliser, c'est le Mont-d'Or chaud.
Ah oui,
la boîte,
moi, je suis un piètre,
la boîte chaude.
Ouais, je suis très mauvais en cuisine, je rate l'eau tiède, donc je fais des choses assez simples.
Et ben, vous avez raison, parce que la boîte chaude, c'est impossible à rater.
Voilà, on plante de l'ail dedans, un petit peu de vin jaune au milieu là, dans un petit cratère là.
Et dans c'est un fromage, faut préciser.
Oui, au milieu du fromage. Le tout au four sur des patates et c'est parfait.
Et c'est délicieux.
Et on accompagne ça d'un vin jaune.
Ouais.
Le vin jaune qui est quand même la grande spécificité viticole de la Franche-Comté, mais j'ai envie de dire de la France. Et du monde, parce que c'est un vin qui n'a aucune équivalence.
Ah, autant, à ce point ?
Exactement. Autant vous
prenez
des...
Vous n'êtes pas
franc-comtois ? Non, je ne suis pas franc-comtois, j'adore ces vins, mais c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'ils sont totalement uniques. Autant vous avez des vins de Bourgogne qu'on essaye d'imiter, qu'on arrive à peu près à copier à gauche ou à droite, ou des styles bordelais, ou même des effervescents à la champenoise, mais du vin jaune de Franche-Comté, il n'y a nulle part où on peut le faire. Et ça tient essentiellement à trois éléments qui déterminent la typicité de ce vin. Et je me suis permis de vous en servir un petit verre, les amis. Vous allez pouvoir déguster ça. La première typicité, c'est son cépage. Son cépage, c'est le Savagnin, qui est un cépage vraiment très, très, très caractéristique et qu'on ne trouve pratiquement qu'en Franche-Comté. Il n'y a pas d'autre endroit en France où il pousse. Ça, c'est la première caractéristique.
Et pourquoi il ne pousse pas ailleurs ?
Parce que un cépage s'adapte toujours à un environnement, donc il faut que le climat, le sol soient adaptés. On ne peut pas planter n'importe quel cépage n'importe où, donc il a trouvé là-bas des conditions de vie qui lui vont très bien et on ne pourrait pas le transposer ailleurs. Et puis, parce que c'est un cépage qu'il faut savoir maîtriser et ensuite, il faut savoir l'élever et le vinifier. Et ça, c'est très spécifique, parce que ce qui fait la typicité du vin jaune, c'est ensuite l'élevage. Donc ce cépage, une fois qu'il était ramassé, il va être vinifié et élevé dans des fûts de chêne pendant une durée de 6 ans et 3 mois. Oui. Et la particularité, c'est qu'on ne va pas remplir le tonneau au fur et à mesure qu'il va y avoir de l'évaporation au travers la petite porosité du bois, on ne va pas le houiller, comme on appelle ça. Et donc le niveau va baisser, au-dessus va se former un voile constitué de levures mortes, de bactéries. Et c'est ce voile, l'oxydation ménagée et le temps qui donne ce goût absolument unique.
Ah oui, c'est incroyable, ça se concentre en plus. Donc.
Ça se concentre.
C'est un savoir-faire qui date de quand ?
Alors, les premières traces du vin jaune sont liées à la fondation de l'abbaye de Château-Chalon au 7e siècle. La dénomination réelle arrive au 19e, en 1822, avec un savoir-faire qui, là, devient vraiment typique, parce qu'on constate qu'il y a un goût unique. Et d'ailleurs, c'est très joli, ce qu'on appelle la partie qui manque, qui s'enlève du tonneau, on appelle ça la part des anges.
Ah, c'est beau. Et alors, c'est magnifique. Le goût, moi, j'adore. Rien que le nez, déjà, c'est tout un voyage.
Et oui, alors ça, c'est un goût unique et il faut bien le reconnaître un peu clivant. Tout le monde n'aime pas ça.
Ouais, c'est vrai.
Alors, j'ai même envie de dire, soit on l'adore, soit on le déteste.
Moi, je l'adore et je trouve que ce qu'il faut dire, c'est un goût de noix.
Voilà, alors ça sent la noix, ça sent le curry.
C'est
très épicé. Ouais. Certains trouvent un goût un peu médicamenteux, moi pas, j'adore ça. Et puis, il y a une autre particularité, la dernière et la troisième. Regardez, j'ai ici la bouteille, alors les gens ne la voient pas, mais probablement avez-vous vu déjà une bouteille de vin jaune, ici c'est un Château-Chalon. Elle a une forme particulière et une contenance particulière. Une bouteille de vin classique, c'est 75 centilitres. Ici, c'est 62 centilitres. Et alors, pourquoi ? Si vous avez une petite idée.
Aucune idée.
Bien, tout simplement parce que ce qu'il n'y a pas dans la bouteille, c'est-à-dire le manque entre les 62 centilitres et le litre, c'est la part des gens, c'est ce qui s'est envolé.
Ah.
Et donc, le clavelin, puisque c'est comme ça que s'appelle la bouteille, est une bouteille de 62 centilitres.
Incroyable, c'est des super histoires ça.
Je trouve que tester.
Est-ce qu'on ne parlerait pas de la Franche-Comté tous les soirs? Ça pourrait pas être le thème de l'émission.
Et demain, on fera la Concoyotte puis le Comté, on a de quoi faire.
Il y a de quoi faire.
Qui vont très bien avec le vin jaune.
Absolument. Merci beaucoup Olivier. Dans un instant, on se retrouve avec tous les bons plans de Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet pour profiter à fond de la Franche-Comté. Et si on partait sur Europe 1, un petit Bob Marley pour se détendre, avant de repartir en Franche-Comté et puis ensuite au Groenland. Marley, Three Little Birds. Et si on partait sur Europe 1, nous partons tranquillement dans une belle région de France tous les soirs pendant une heure pour nous échauffer et puis partir très très loin ensuite. À partir de 17h, nous irons au Groenland.
Europe 1, Philippe Googler.
Alors la Franche-Comté, ça se découvre avec tous les sens, avec les yeux, avec les nez, avec les oreilles et puis surtout avec les bons conseils de Jean-Bernard Carrier pour ne pas se tromper.
Alors pour ne pas se tromper, je vais vous dire, on pourrait commencer par la nature. Mais j'ai envie d'aborder une autre dimension de votre fabuleuse région. J'ai été très sensible à l'importance et à la mise en valeur des savoir-faire traditionnels et artisanaux, notamment dans le département du Doubs. Le Doubs, c'est un département dans lequel on fabrique. Je me suis rendu compte chez vous, dans votre région, Philippe, c'est comme chez moi en Lorraine, les gens ont des mains d'or et ils en sont fiers.
Alors qu'est-ce qu'on fabrique et qu'est-ce qu'on peut voir concrètement?
En fait, c'est très bien organisé en Franche-Comté. Sur place, j'ai découvert l'existence d'un réseau qui s'appelle le Made in Chez Nous, c'est la grande mode, qui regroupe un certain nombre d'entreprises qui ouvrent leurs portes au public pour justement leur faire découvrir ces savoir-faire d'exception, que ce soit les domaines de l'industrie, de l'agroalimentaire, alimentaire, de l'artisanat ou des métiers atypiques.
Il y a un métier particulier que vous nous conseillez?
Alors justement, on a parlé de la tradition horlogère à Besançon. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné depuis que je suis enfant. C'est comment on fabrique une montre. Alors je suis allé chez Utinam à Besançon. C'est un créateur horloger bien connu.
Vous savez que Utinam, c'est le nom latin de Besançon.
Ah ben je savais pas, voilà. Merci. Donc ce fameux créateur horloger, on peut visiter son entreprise, l'atelier de fabrication, et on voit justement ces artisans qui assemblent avec une minutie absolument incroyable, un sens du détail prodigieux, on dirait de la haute couture, moi ça m'a vraiment renversé. C'est un petit peu l'âme de la région qui s'exprime dans ces ateliers à travers cette visite.
Mmh. Alors on peut même faire plus que visiter.
Ben, c'est ça qui est génial chez Outinam, c'est que...
On peut avoir l'heure.
Alors, on peut avoir l'heure, mais en plus, vous pouvez la fabriquer, cette montre, parce qu'il y a des ateliers d'initiation à la fabrication horlogère. Vous êtes encadré par un maître horloger, et pendant une heure, deux heures ou trois heures, ça dépend ce que vous retenez, vous allez apprendre à confectionner un cadran avec des aiguilles. Alors, c'est vraiment un monde de microcosme mécanique, c'est très spécial.
Mais une vraie ou c'est un peu...
C'est une vraie, vous êtes sur un établi, vous avez la petite lunette, espèce de loupe là, ouais, sur l'œil, et avec une brucelle, ça s'appelle une brucelle, c'est une pince à épiler, figurez-vous, vous allez apprendre en vous concentrant avec les gestes que le maître horloger va vous apprendre, vous allez apprendre à poser les aiguilles sur le cadran. C'est un exercice de minutie absolument incroyable. Il ne faut surtout pas trembler. C'est un mécano miniature qui est vraiment fascinant.
Ah bon, c'est dingue ça.
Ouais, c'est dingue, ouais.
Puis alors, pour ceux qui ne sont pas patients et qui tremblent, vous avez autre chose ?
Ah bah là, on se contentera de discuter avec le maître horloger, parce que lui, c'est quelqu'un de passionné. Ils vous transmettent aussi leur passion. C'est ça que j'aime aussi chez les Franc-Comtois, c'est cette passion avec leur savoir-faire, leur artisanat traditionnel.
On parle un peu du Jura ?
Ah, le Jura, ah ben, le Jura, les trains, Philippe,
oui.
Il y a un train qui s'appelle la ligne ferroviaire, la ligne des Hirondelles. Ah, vous
oui,
la connaissez celle-là ?
Ben, un petit peu,
ah,
forcément.
Ben, voilà. C'est magique. Alors, ce n'est pas un train touristique, c'est une vraie ligne TER, une vraie ligne régionale qui relie Dole à Saint-Claude, ouais, sur 123 km entre plaine et la montagne. Alors, en cette période de slow travel, mobilité douce, on prend 2h30 pour faire ces 23 km.
Ah, oui, autant
dire qu'on a le temps de savourer le paysage. C'est franchement génial. Moi, j'ai adoré, parce qu'on traverse la fameuse forêt, je pense que Aldebert connaît, la forêt domaniale de la Chaux,
ouais, qui est une forêt de Chaux.
Ouais, c'est magnifique. Donc le train traverse cette forêt. On traverse aussi, Olivier, ça va l'intéresser, on traverse les vignobles aussi du Jura avec ce train. On traverse la vallée de Grandvaux et on passe même un col à 948 mètres d'altitude. Il y a plein de viaducs, il y a des tunnels et des points de vue absolument impressionnant. Ouais. Juste une petite précision quand même, le train actuellement est en travaux, la voie est en travaux, il reprendra du service fin septembre, et j'allais dire ça sera encore mieux parce qu'on sera en pleine couleur de l'été indien.
Guillaume Aldebert, vous êtes avec nous, quelle balade vous conseilleriez, vous, en Franche-Comté, pour ceux qui nous écoutent ?
Moi, c'est des balades un petit peu en altitude.
Ouais,
moi j'ai
le beaucoup, Houdou,
j'ai,
le Jura.
Ouais, voilà, moi j'ai appris à skier, comme je disais tout à l'heure, à Mout, à Métabier, ces coins-là j'aime bien. Mmh. Et c'est vrai que j'ai une petite préférence pour le Houdou. C'est un coin que j'aime bien parce que c'est paisible et en même temps un petit peu physique. Mmh. Donc j'aime bien ces oppositions dans le paysage aussi, parce qu'on a vraiment des grandes plaines et puis tout d'un coup, paf, ça attaque. Et ouais, c'est des coins que j'aime bien.
Il y a un département franc-comtois et je le reconnais, souvent on en parle peu. Alors qu'il est plein de merveilles, c'est la Haute-Saône.
Bah oui, notre fameuse 70 dont on a
notre
parlé tout à
l'heure. 70. Je ne sais pas pourquoi on parle, moins.
Bah, à cause de Vesoul, c'est le chef-lieu. C'est vrai que Vesoul, ça ne fait pas forcément rêver.
Et vous savez, il y a un truc, j'ai honte, je ne devrais pas le dire, mais vraiment, j'implore leur pardon aux habitants de Haute-Saône.
Oui.
Mais quand j'étais petit, on me disait toujours, à la Haute-Saône, il ne faut pas y aller, c'est plat, il n'y a que des patates.
Ah bah, c'est complètement faux.
Surtout, je ne sais pas pourquoi on disait ça.
Il y a franchement une erreur géographique, parce que si vous allez du côté du plateau des Mille Étangs, je pense qu'Aldebert, vous connaissez ce plateau. Moi, c'est l'un de mes coins de France préférés quand j'ai besoin de déconnecter. C'est vraiment la nature à l'état pur. Rien que pour y aller, c'est une petite aventure. Moi, j'ai pris la route au départ de Luxeuil-les-Bains. C'est une succession de départementales. Vous savez, ces petites routes qui commencent toutes par D. Alors, on commence par la D137, la D139. Ensuite, c'est la D139E. Là, ça veut dire que le GPS commence un petit peu à perdre les pédales.
C'est là qu'on est déplein.
On est déplein. Et on arrive sur quoi ? On arrive sur un paradis naturel avec des tourbières, des étangs, dans les premiers contreforts des Vosges. C'est vraiment un bol d'air absolu, ce plateau des Mille Étangs.
Ouais. Il y a des activités ?
Ouais, pas mal de choses à faire, Philippe. Bien sûr, la randonnée, c'est l'idéal. N'oubliez pas vos chaussures de marche. Il y a c'est un paradis vert qui est sillonné par plein de sentiers de randonnée, de VTT également.
Il y a la pêche ?
Et la pêche aussi, tout à fait. Et puis il y a ces odeurs aussi, ces odeurs de mousse, de champignons. Il y a plein aussi pour les épicuriens comme Olivier. Il y a aussi des sites de pique-nique qui sont aménagés. Il ne faut pas oublier son comté dans sa besace.
Merci beaucoup Jean-Bernard. Merci beaucoup Jean-Bernard. On ne peut plus l'arrêter quand il adore une région qui est comme ça. Merci beaucoup les amis. Merci Guillaume Aldebert.
Merci à vous.
D'être venu nous parler de la Franche-Comté. Je rappelle qu'en ce moment, vous travaillez sur Enfantillage 4 qui va nous emmener autour du monde. Un album avec des artistes de partout, de Vietnam, de Corée, d'Australie. Ça va être super. Merci Guillaume, merci les amis. On se retrouve dans quelques instants après le flash pour partir encore plus loin dans ce qui est une des plus belles destinations de la planète. C'est le monde de la glace, des icebergs, des chiens de traîneau, des phoques. C'est un pays immense, 4 fois plus grand que la France et peuplé seulement de 57 000 habitants. Beaucoup de villages ne sont reliés à rien du tout. Aucune route, isolement absolu. Ne rangez pas votre valise, prévoyez une grosse doudoune. Nous partirons au Groenland. A tout de suite.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et si on partait deuxième heure, c'est l'été, c'est le moment de lâcher prise. Tous les après-midi sur Europe 1, je vais vous emmener au bout du monde et même dans les endroits que vous n'auriez jamais envisagés. Sur Europe 1, c'est déconfinement total, juste pour le plaisir de rêver, de s'évader. Attention, décollage maintenant.
16h, 18h, et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Et si on partait aujourd'hui dans un endroit assez peu connu ? Je dirais même que c'est un endroit où on ne pense pas du tout à aller en vacances. Et pourtant, c'est une pure merveille. C'est à mes yeux, dans le top 5 des destinations les plus spectaculaires de cette planète. Je vous emmène aujourd'hui au Groenland. Et à mes yeux, un des endroits les plus fascinants du Groenland, c'est le petit port d'Ilulissat, sur la côte ouest du Groenland. Là-bas, il y a un phénomène un peu particulier, il y a une concentration spectaculaire d'icebergs. Ils s'accumulent en face du port, sur la mer, et il faut imaginer comme une forêt d'icebergs. Imaginez une montagne de glace devant vous, et ce n'est pas une montagne qui peut monter à 200 mètres de haut. C'est des dizaines de montagnes qui flottent là tout autour, lentement, en attendant de fondre un peu. Et c'est un spectacle qui est difficile à concevoir quand on ne l'a pas vu de ses propres yeux. Et c'est pour ça qu'une fois sur place, c'est aussi fascinant. Alors, pour en profiter, le truc, c'est d'aller discuter avec un pêcheur pour qu'il vous emmène en bateau, qu'il vous emmène au milieu de ces icebergs pour assister à ce spectacle. Et c'est fantastique. Vous serpentez dans un labyrinthe d'icebergs, vous naviguez entre des monstres de glace qui ont 50 nuances de blanc. Alors, il y a le blanc pur, il y a le blanc qui tire vers le bleu glacier, le bleu électrique. Et tout ça, ce ne sont pas des murailles lisses. Elles sont percées de tunnels, d'arcades gigantesques, de volutes. Et il y en a de toutes les formes, de toutes les tailles. C'est juste magnifique. Alors, évidemment, il fait un froid de canard. Quand j'y suis allé, il faisait moins 20. Donc, ça rend le moment encore plus intense parce que vous savez bien que vous ne resterez pas là des heures. Donc, il faut écarquiller les yeux et jouir de chaque seconde, ce qui rend l'émotion encore plus forte. Et je dois bien vous l'avouer, c'est une des fois sur cette planète où j'ai carrément pleuré. Ça m'arrive rarement devant un paysage, mais le mélange de la dureté du moment par le froid et de la beauté absolue par le spectacle, ça déclenche des émotions qu'on n'imagine pas. Et tout ça déclenche une fascination dangereuse parce qu'on a très envie de s'approcher, d'aller toucher la glace, de se glisser à l'intérieur de l'iceberg, dans les passages et les tunnels. Mais ce serait une erreur terrible parce que c'est extrêmement dangereux. Un iceberg, par définition, ça fond. La glace, ça peut se briser, s'écrouler à tout moment. Donc non, personne ne vous emmènera faire ça. C'est trop dangereux. Et pourtant, le désir est tenace. On a envie d'y aller. D'ailleurs, il m'est arrivé une aventure lors d'un tournage de Faut pas rêver. J'étais à 50 mètres d'un iceberg. Et tout à coup, dans notre dos, alors qu'on est sur le bateau, un gros fracas. Le fracas du craquement de la glace et le son de dizaines de tonnes de glace qui tombent dans l'eau. C'est plus qu'un énorme plouf. Donc sur le bateau, tout le monde se retourne pour voir ce qui se passe. Alors c'était effectivement un gros bloc de glace qui venait de tomber d'un iceberg. Et pendant un instant, je me dis, bah, c'est cool, on n'était pas en dessous, on est sauvés.
Sauf qu'il y a un deuxième effet. Le bloc de glace qui vient de tomber dans l'eau, il crée une énorme vague, comme un tsunami. Et une vague qui file vers le bateau. Et là, je peux vous dire que ça fait très, très peur. Parce qu'il fait moins 20, l'eau doit être à 1 ou 2 degrés, et on n'a pas du tout envie que le bateau se retourne. Donc vous voyez arriver la vague lentement avec angoisse. Pendant quelques secondes, c'est silence sur le bateau. Plus personne ne dit rien. Le bateau, il n'est pas énorme. C'est une petite coquille de noix par rapport à la taille des icebergs. La vague arrive. Et heureusement, on était avec un bon marin qui a su manœuvrer et qui a su nous sauver. Mais le spectacle des icebergs, il a un prix. C'est ça, c'est le risque. Plus vous voulez les voir de près, plus c'est dangereux. Plus vous les aimez, plus ils peuvent vous tuer. Et c'est peut-être ça qui les rend fascinants.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
Encore plus de Groenland, encore plus d'aventures dans un instant. Dans Et si on partait, nous serons avec Nicolas Dubreuil, aventurier, spécialiste des milieux polaires. A tout de suite.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
Et si on partait très très loin dans le monde des glaces, je suis toujours avec ma bande de joyeux voyageurs, Nathalie Elal, auteure, grande voyageuse, Jean-Bernard Carrier du Guide Lonely Planet, Olivier Pouls, chroniqueur elle est difficile celle-là. Hein.
Gastronomique, je vous aide.
Et puis avec en ligne Nicolas Dubreuil qui est aventurier, spécialiste des milieux polaires. Nous parlons du Groenland. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Vous avez fait votre première expédition au Groenland il y a une trentaine d'années pour aller voir des baleines. Cet endroit vous a retourné, comme moi, hein, j'ai eu le même effet quand j'y suis allé. Mmh. Et vous avez plus tard acheté une maison là-bas dans un endroit qui s'appelle Kuchlorsuark, je l'ai bien dit ?
Pas mal, pas mal du tout, ouais, carrément bien, oui.
Combien de temps on met pour aller là-bas dans cette maison ? Comment on fait ?
Alors, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple. Si on part maintenant, on va mettre une journée pour aller au Danemark, ensuite une journée pour arriver au Groenland, et puis plusieurs jours pour arriver dans la petite ville d'Upernavik. Et puis à la fin, il y a une heure et demie d'hélicoptère. Donc, si tout se passe bien, s'il y a une bonne météo et tout
on
ça,
environ,
il faut compter 5 jours. Voilà, c'est ça.
C'est pratique pour aller y passer un week-end ?
Ouais, pour le week-end, c'est court. Ouais, c'est un petit peu tendu.
Alors là, on plaisante, mais j'ai lu dans vos notes un proverbe que vous nous avez transmis qui est superbe. C'est là-bas, au Groenland, on dit « Seul le temps et les glaces sont maîtres ».
Oui, et ça, je crois que c'est vraiment la chose moi, qui m'a retourné complètement. Là, ce que vous disiez là, dans votre texte tout au début, c'est sublime et c'est exactement ça. C'est-à-dire le premier proverbe que j'ai appris en groenlandais, c'est Silarsoark, Sikushluk, Isimine Galavork, et qui veut dire justement seul le temps et la glace sont maîtres. Et c'est ça qui est absolument phénoménal. C'est-à-dire qu'on est, c'est un de ces rares lieux où l'homme est submergé par la nature. C'est-à-dire qu'on est dans cette, dominé par cette nature, comme vous le décriviez avec ces icebergs gigantesques. Ce froid, en plus, je crois que le froid comme ça nous ramène dans le réel et on se sent tout petit, tout humble.
Est-ce que vous pouvez essayer de nous raconter cette atmosphère qui règne quand on est là-bas, complètement isolé, au milieu des glaces ? C'est très difficile à retransmettre.
Ouais, je crois que justement, c'est ça qui c'est très, très dur. Hein. Il y a très peu de textes comme ça qui le décrivent bien. Je pense que justement, c'est ça qui est aussi extrêmement intéressant, c'est que on peut avoir du virtuel, on peut avoir des images, on peut avoir de la réalité virtuelle pour rendre les choses. Je pense que il faut les vivre. C'est-à-dire que la glace demande à être vécue, le froid demande à être vécu, parce qu'on peut parler d'un froid, il fait moins 20, il fait moins 30, il fait moins 40. Il faut se dire qu'entre, par exemple, moins 30 et moins 50, il y a autant de différence qu'entre 0 et 20 degrés. Mmh. Donc le froid comme ça, le froid intense, moins 50, c'est les minimums qu'il y a à Kuchlorsuark, eh bien c'est quelque chose d'indescriptible. Mmh. C'est ce froid qui paralyse et à la fois qui envoûte et qui rassure, qui donne une espèce de cocon maternel et à la fois qui est complètement mortel.
Et alors, est-ce qu'on peut quand même sortir un peu quand on est bien habillé, bien protégé ? On peut rester dehors longtemps ?
Ah bah oui, complètement.
Quand il fait moins 30, moins 40 ?
Ouais, en fait, à partir de moins 35, la peau, elle gèle en quelques minutes. C'est-à-dire, la peau à l'air, elle gèle en quelques minutes. Donc, dès que ça descend en dessous de moins 35, moins 40, ça devient compliqué quand même de sortir. Il faut mettre du gras sur le visage, sur les mains et tout ça. Mais, ben, voilà, il y a des gens, il y a des Groenlandais. Moi, c'est ça aussi qui m'a complètement séduit. C'est que je suis arrivé au Groenland avec mon assurance d'occidental, de tout connaître, d'être bien protégé, d'avoir la meilleure fourrure polaire, le meilleur Gore-Tex possible. Et là, j'ai rencontré des gens, mais qui nous surpassent, mais qui sont à des années-lumière de nous et qui sont tellement, tellement forts, tellement robustes dans des vêtements qui paraissent pourtant complètement, rudimentaire.
Ouais, sans le Gore-Tex et tout ça. Nathalie.
Oui, bonjour Nicolas. Comment est-ce qu'on peut s'habituer à ces températures extrêmes, ce froid extrême que vous décrivez magnifiquement, quand on est né sous d'autres latitudes ?
Ben, je pense que c'est le temps. Le temps, vraiment. D'abord, il y a une prédisposition, forcément. Il y a un changement d'habitude alimentaire. Ça, c'est très important.
Il faut éviter de manger que
des salades et des carottes, parce que là, pour lutter contre un moins 50, ça va être compliqué, quoi. Mais voilà, il y a aussi s'habituer psychologiquement, des règles. C'est ça qui est très, très beau. Par exemple, moi, au Groenland, on voit, il fait moins 30 degrés et t'as tous les gamins qui jouent au foot sur la banquise. Et tu te rends compte qu'un gamin qui tombe, par exemple, et qui va faire tomber son gant, il va prendre le temps de s'arrêter, d'enlever la neige de son gant, de bien l'épousseter avant de repartir jouer. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, que nous, on ne va pas faire. Et la neige qui va être un petit peu dans le gant, et ben, elle va fondre avec la chaleur de la main, elle va se transformer en eau, ça va refroidir et on va avoir des gelures. Ouais. Et ben, eux, ils ne le font pas. Donc, c'est vraiment toute une technicité, un apprentissage de tous les jours, et qui fait qu'on arrive finalement, au bout d'un moment, à résister à ces températures-là.
On va continuer à parler de cette région incroyable du Groenland dans un instant avec vous, Nicolas. On plongera vraiment très très loin parce que c'est d'une profondeur insondable en termes d'émotion, le Groenland. À tout de suite.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Et si on partait chaque fin d'après-midi entre 16h et 18h, un grand voyage. Aujourd'hui, le Groenland. Installez-vous, respirez et partez. Alors, moi, ce qui me fascine le plus dans le Groenland, c'est de quoi il est fait. Vous savez, cette grosse tache blanche qu'on voit sur les cartes du Groenland, qu'est-ce que c'est ? Mais en fait, c'est une immense cuvette, grande comme à peu près 4 fois la France, qui contient un énorme bloc de glace. Et c'est vraiment de la glace, une quantité phénoménale de glace. À certains endroits, elle fait 3000 mètres d'épaisseur, 3 km d'épaisseur de glace. Et cette glace, c'est 10% des réserves d'eau douce de toute la planète. Et il faut imaginer le poids de cette glace. Il est tellement énorme que le sol qui est en dessous s'est lentement enfoncé. Le fond de la cuvette est passé en dessous du niveau de la mer. D'ailleurs, on ne sait pas très bien ce qui se passe en dessous. Le Groenland, ce serait peut-être 3 îles recouvertes de glace, mais on ne sait pas très bien. Toute cette glace, au départ, ben c'est de la neige. La neige qui est tombée encore, qui s'est accumulée pendant des millions d'années. Elle a durci, elle est devenue de la glace. Et comme il neige encore, le poids est de plus en plus élevé. Donc la glace est comme poussée sur les côtés, poussée dans les vallées gigantesques. Et quand la glace tombe dans la mer ou dans les fjords, eh bien ça donne des glaçons qui flottent, mais des très très gros. C'est la naissance des icebergs, des montagnes de glace qui vont alors commencer un long voyage dans la mer qui peut durer des mois sur des milliers de kilomètres avant qu'ils ne fondent complètement.
Et si on partait sur Europe 1, 2 heures d'évasion avec Philippe Googler.
Et je vous promets que c'est un très, très grand voyage. Nicolas Dubreuil, vous êtes avec nous, toujours en direct. Vous êtes aventurier spécialiste des pôles. Est-ce que... vous savez, les gens au Groenland vivent surtout sur les côtes. Mais au milieu, on a bien vu que c'est cet énorme bloc de glace. Hein. Comment c'est au milieu ? Vous êtes déjà allé au milieu ? À quoi ça ressemble ?
Alors oui, j'ai eu la chance de faire plusieurs traversées de cette calotte glaciaire, un peu dans tous les sens. C'est assez fantastique, hein. C'est complètement envoûtant. Il y a absolument rien. Il y a rien. Ça fait que monter tout doucement jusqu'à arriver au milieu, puis après ça redescend. C'est que de la glace. Il n'y a aucun animal.
C'est lisse. Ça gratte. Il y a des creux,
non,
des vallées.
C'est C'est un petit peu comme des vaguelettes, on appelle ça des sastrugis, c'est des vaguelettes faites par le vent. Mais c'est complètement vide et c'est assez impressionnant. Et d'ailleurs, c'est là où, en fait, où, au niveau des expéditions, on a le plus de problèmes avec, avec les gens, justement, qui viennent faire des expéditions. C'est cette solitude. C'est-à-dire qu'on est un peu comme dans la matrice. C'est-à-dire, c'est du blanc tout autour. Et en fait, les gens sont énormément gênés par ce blanc et cette hostilité où il n'y a absolument rien. Il n'y a plus de repères. On n'a plus aucun repère.
Mais alors, quand vous traversez le Groenland, ça prend combien de temps et vous y allez comment?
Ben, on y va à ski, en fait, en tirant un petit traîneau, là, avec notre nourriture. Ça va mettre entre, on va dire, les plus longues traversées vont faire 3 mois, les plus courtes, 3 semaines, quelque chose comme ça.
Ah oui, c'est court.
Je reviens dans 3 mois, je traverse le Groenland.
Au moins, on est peinard. Hein.
Moi, j'aimerais parler aussi des Groenlandais, parce que finalement, on en parle assez peu. Ils ne sont pas très nombreux, il y en a 57 000, je crois, sur un territoire grand comme 4 fois la France. Comment il est le caractère du Groenlandais? Est-ce qu'il donne un coup de main? Est-ce qu'il est sympa?
Alors, moi, c'est ça qui m'a complètement séduit. C'est-à-dire qu'il est complètement à l'opposé de tout ce que j'avais appris. C'est-à-dire, c'est des gens qui m'ont enseigné, par exemple, quand j'ai appris à conduire un traîneau, moi, j'étais persuadé qu'ils allaient m'aider et me donner les meilleurs chiens. C'est normal, le débutant, on va lui donner les meilleurs chiens pour qu'il y arrive. Ben non, au contraire, on m'a filé tous les rentemplans, ce qui fait que c'était un enfer pour moi pour apprendre. Quand j'ai voulu réparer ma maison là-bas, ce qui m'intéressait, c'est d'acheter une maison dans l'état et puis d'avoir à la réparer par moi-même, je me suis rendu compte qu'ils m'aidaient pas. Et j'avais des amis vraiment proches et puis j'étais obligé de leur demander. J'ai dit mais pourquoi vous m'aidez pas? Et ils m'ont dit ici on n'aide pas les gens parce que c'est leur montrer qu'ils sont pas capables de faire les choses. Ah. Et puis la deuxième chose, c'est si t'as besoin qu'on t'aide, c'est que t'as rien à faire ici.
Oh, c'est sympa.
Donc, ouais, très rude, hein, c'est très très rude.
Est-ce que c'est un moyen de vous protéger? C'est-à-dire qu'il vaut mieux que tu sois pas là si t'as rien à faire là, sinon tu vas mourir, c'est un truc comme ça?
Exactement. Ah, ouais. Exactement, c'est ça. En fait, c'est d'une générosité incroyable. C'est-à-dire qu'ils disent les choses, vraiment, ce qu'on nous, on n'oserait pas dire. Eux, en fait, ils le disent. Et c'est ça qui est très très fort. Et puis, bon, évidemment, des gens qui sont proches, qui sont doux, qui sont tendres. Ça a été vraiment pour moi une rencontre absolument incroyable. Je me souviens de parties où on partait en traîneau sur la banquise. Il fait très froid, on est tous ensemble, on dort sous la tente, allongé sur des peaux de caribou et des peaux d'ours. Et puis, ils voient bien que moi j'avais froid, donc je tremblais dans mon duvet. Ils me disent mais ça va, t'as froid? Je dis non, mais ça, je vais me réchauffer, ça va venir, je vais me réchauffer. Puis tout d'un coup, ils commencent à me chatouiller. Alors donc on recommence tous à se chatouiller. Et au bout de 2 minutes, évidemment, tout le monde a super chaud. Voilà. Donc, c'est une façon de se réchauffer qui est absolument incroyable.
Ça plaît beaucoup à Nathalie.
Ah oui, j'adore, moi, ce genre de guilly sous la glace. Oui, allons-y.
Je pense qu'elle va bientôt aller vous retrouver là-bas.
Non, peut-être pas, parce que 3 mois pour une petite balade, c'est pas une bonne affaire.
Merci beaucoup. Si ça vous ennuie pas, je vous propose de rester avec nous tout au long de cette heure parce qu'on va continuer.
Je vous remercie.
On va continuer à parler du Groenland, bien sûr. On va poursuivre l'aventure avec tous mes amis voyageurs qui ont mis leur doudoune et leur moufle, à part Nathalie qui a envie d'avoir froid, visiblement. On se retrouve dans quelques secondes.
Europe 1, Philippe Googler.
Et si on partait, on vous emmène dans le froid ce soir. Mais le froid sublime, ce froid que vous oublierez, je vous dis ça pour l'avoir vécu sur place, c'est vrai, on en arrive à oublier le froid tellement le spectacle est incroyable là-bas au Groenland. Nous sommes maintenant en ligne avec Julien Caquineau en direct du Groenland. Vous m'entendez?
Oui, je vous entends. Oui.
Super, c'est comme si vous étiez à côté de moi, c'est formidable. Vous vivez au Groenland depuis 15 ans, pendant une dizaine d'années, vous avez été là-bas chasseur et pêcheur, vous êtes marié à une Groenlandaise, vous avez des enfants, vous vivez à Sisimiut, qui est une ville de quoi, 6000 habitants, c'est ça?
Oui, à peu près.
Ouais. Ouais. Comment vous étiez pêcheur et chasseur? Vous en viviez? C'était votre boulot?
Oui, en fait, il n'y a pas de... Les gens mangent toujours de la viande locale. Et vous avez des gens, des chasseurs commerciaux, en fait, dont le métier, c'est d'aller chasser pour approvisionner les garderies, etc.
Les garderies, les écoles, donc c'était votre boulot.
Vous achetez votre viande directement aux chasseurs.
En fait, le boucher s'occupe directement de l'approvisionnement.
C'est
en fait.
Ça.
C'est des circuits très courts, en fait.
Enfin, pas si courts que ça.
Qu'est-ce
qu'il faut faire pour aller...
C'est un peu...
Alors oui, alors, le petit délai qui nous empêche de parler bien. Il y a un petit délai entre nous deux, il faut laisser le blanc. Comment on fait pour aller pêcher le flétan? Comment ça se passait à l'époque quand vous alliez pêcher le flétan, qui est le poisson le plus nourrissant au sens économique du Groenland?
Alors oui, dans la partie nord-ouest du pays, ouais, c'est une grosse industrie maintenant, le flétan. Ça se pêche à la longue ligne, une grosse partie de l'année à la longue ligne. De temps en temps, l'hiver, quand le ministère de la Chasse et de la Pêche l'autorise, on peut pêcher avec des filets, mais c'est assez rare.
Alors la longue ligne, vous pouvez m'expliquer comment ça se passe? C'est-à-dire, vous faites un trou dans la glace, c'est ça?
Alors l'hiver, oui, quand on est avec les chiens sur la banquise, on fait un trou sur la glace, puis vous descendez votre ligne sous la banquise. Mais sinon, une grosse partie de l'année maintenant, ça se passe en bateau, puisqu'il y a de moins en moins de... Surtout dans la région d'Ilulissat où j'habitais, où il y a de moins en moins de banquises. Donc les bateaux sont capables de quasiment sortir toute l'année.
Ouais.
Mais là, vous faites pareil, sauf que le d'être sur la banquise, ben, vous faites depuis le bateau, vous descendez votre ligne à peu près 800 mètres de fond.
Ouais. Alors ce que j'aime bien, c'est le naturel avec lequel vous m'avez dit, oui, on fait un trou dans la glace, puis on pêche dedans. C'est sûr, vous savez, pour nous, c'est pas normal hein, de devoir faire un trou dans la glace pour pêcher. Donc vous êtes gelé par moins 20 et vous creusez la glace. C'est comme ça que ça se passe avant de mettre votre ligne.
Ouais, alors moins 20, c'est quand il fait beau, ça c'est quand on arrive au mois d'avril, c'est quand on arrive au mois de mars, avril, quand le soleil est revenu, c'est bien. Sinon, c'est plutôt moins 30. Mais vous avez... Alors il y a des refuges, hein, suivant où vous habitez, la région dans laquelle vous êtes, il y a quand même des installations qui sont posées un peu partout pour mis à disposition des pêcheurs. Donc vous dormez pas en tente pendant la nuit polaire, etc. Vous dormez dans un refuge. Et après, tous les jours, depuis ce refuge, vous allez à votre spot de pêche. En général, tous les pêcheurs se mettent ensemble. C'est ça, vous faites un trou dans la glace. Et puis vous avez un... Je sais pas comment on dit en français, on appelle ça un moarfik en groenlandais, un truc pour une espèce de bobine pour remonter la ligne, en fait.
Et l'avantage, c'est que le poisson est tout de suite congelé après.
Oui, c'est ça.
Ouais, le poisson est tout de suite congelé, ouais. C'est assez pratique. Ouais.
Mais avec quoi vous faites le trou dans la glace?
Bah avec un pic,
tout
alors
simplement.
C'est un grand, on appelle ça un torque. Non, c'est l'outil indispensable, en fait, quand vous vivez dans le nord du Groenland, on appelle ça torque. C'est un grand bâton, en fait, avec une lame aiguisée au bout. Ouais. Et vous percez la glace avec ça.
Alors ça, c'est pour la pêche, mais alors on m'a dit que vous chassiez également le narval. C'est une grosse bête, ça. C'est une sorte de petite baleine, non? Je me trompe? Comment c'est?
Ouais, alors ça existe quasiment plus, les gens qui vivent que de la chasse, parce que c'est impossible de vivre que de la chasse au Groenland aujourd'hui. En 2020, même depuis plus de 10 ou 20 ans, c'est quasiment devenu impossible de vivre que de la chasse. Donc les gens sont en priorité pêcheurs. C'est ce qui ramène l'argent au foyer.
Qu'est-ce que c'était le narval? Alors vous pouvez nous expliquer?
Le narval, c'est comme le beluga. Enfin, le narval et le beluga, ici, c'est considéré comme la même espèce, en fait. Une sorte de petite baleine qui se pêche. Alors c'est assez restreint, on peut pas la pêcher partout tout le temps, il y a des quotas suivant la région où vous habitez, et ça fait partie aussi des gros revenus, surtout dans le grand nord du pays. Des endroits comme Kahanak, Savit, Sivik.
Mais c'est une sorte d'animal avec une longue corne, hein, c'est ça, une sorte de corne sur le front très très longue.
Ouais, pas c'est que les mâles, mais oui, effectivement.
Mais c'est pas protégé comme animal, parce que c'est manger des petites baleines, c'est...
Alors c'est protégé. Bah, ici on chasse toujours la baleine, de moins en moins, mais c'est protégé. Il y a des problèmes, il y a des grosses discussions entre les écologistes et le ministère de la Chasse et de la Pêche, parce qu'on a un ministère de la Chasse et de la Pêche ici, qui attribue les quotas. Et en fait, c'est des problèmes essentiellement économiques, parce que dans une partie du pays, comme des endroits comme Kahanak, l'été, en fait, il n'y a plus de poissons. Ils essaient de comprendre où vont les bancs de flétans, mais quand arrive l'été, en fait, quand la banquise part, alors à Kahanak, la banquise, elle est là-bas jusqu'au mois de juillet, les poissons s'en vont, en fait, les flétans s'en vont. Et le narval, c'est une grosse source de revenus, en fait, pour ces gens. Et si demain vous interdisez la chasse au narval, c'est une catastrophe économique et sociale.
Ouais,
en fait.
Ouais. C'est un gros, gros sujet là-bas. Merci beaucoup. Oui, Olivier,
quelle température chez vous là, à cette heure-ci? On est le 7 juillet, il fait à peu près 23-24 à Paris.
Là,
chez vous
super beau. Aujourd'hui, il pleut. Aujourd'hui, il pleut. C'est l'été, il fait beau. Il fait beau.
Il fait 2 degrés.
C'est l'été, il doit faire 2, ouais, c'est ça. Merci beaucoup pour cette intervention depuis le Groenland. Dans un instant, le plus gros challenge de toute l'histoire d'Olivier Pouls.
Oui, ça c'est
parler
vrai.
Parler de gastronomie au Groenland.
Je crois que je vais vous laisser.
À tout de suite.
Europe 1. Et si on partait ? Philippe Googler.
Et si on partait tous les soirs, toutes les après-midi, pardon, j'ai toujours du mal avec le soir et l'après-midi, sur Europe 1, nous voyageons, nous sommes au Groenland avec Nicolas Dubreuil, aventurier, spécialiste des expéditions polaires, et puis avec Olivier Pouls, qui va-t-il relever le challenge, va-t-il réussir à nous parler gastronomie au Groenland.
Bah, gastronomie, j'en sais rien les amis, mais c'est vrai que là, accrochez vos estomacs parce que ça va tanguer.
Il va y avoir du poisson.
Il va y avoir de la viande, mais oui, vous imaginez bien que dans un pays dans lequel les températures sont comprises entre 0 et moins 35 ou moins 40 degrés, on a besoin de prendre un petit peu de force, on a besoin de calories, de beaucoup de calories, et donc c'est vrai que c'est une nourriture qui est... pour le moins riche.
Autant qu'en Franche-Comté ?
Oui, même un peu plus. Et puis surtout, on joue aussi avec les contraintes de la nature, puisque sur la glace, il n'y a pas grand-chose qui pousse. Mmh. Donc ce qu'on mange en général, c'est ce qu'on trouve dans l'eau ou au-dessus de l'eau, c'est-à-dire les poissons ou la viande. Alors, essentiellement de la pêche, on l'a dit tout à l'heure, avec le beluga, par exemple, avec des caplans qui sont des petits poissons. La chasse, c'est la chasse aux rennes, qu'on pratique énormément. Et puis, la chasse aux phoques également, qui est largement pratiquée. La viande de phoque, qui est une viande assez courue là-bas.
Extrêmement répandue. Bien, on fait tout avec le phoque là-bas, on fait des vêtements aussi. C'est un peu comme les bœufs chez nous, presque.
Oui, alors on la mange crue, on la mange cuite, on utilise la graisse, on fait des préparations. Il paraît que c'est très bon. Hein. J'avoue que je ne l'ai jamais goûté, mais il paraît que c'est très bon.
Nathalie, je vous vois faire la grimace.
Mais non, mais parce qu'on a tout de suite l'image de Brigitte Bardot, des bébés phoques sur la banquise et des massacres, enfin de ces images dramatiques. Et en fait, je pense qu'on ne comprend pas, nous, que tout simplement, c'est leur survie à eux, en fait.
Bien évidemment, il n'y a pas le choix et croyez-moi, ils ont besoin d'en manger.
Nicolas, qu'est-ce que vous en pensez de cet éternel débat autour des phoques ?
Ben, je pense qu'il est dramatique, hein, quoi. C'est été dramatique parce que ce qui a été associé, c'est l'image des massacres de bébés phoques dans le golfe du Saint-Laurent, et avec la chasse traditionnelle groenlandaise où t'as pas le choix, hein, c'est ce que disait Julien. T'habites à Couche-l'Orsoir, si tu manges pas du phoque, tu ne manges rien. Et en plus, bon, le phoque c'est très bon, etc. Là, je vous entendais parler culinairement parlant, c'est assez drôle d'ailleurs. C'est là où on sent l'importance justement du milieu autour de nous. C'est-à-dire que forcément, là ici en France, un foie de phoque cru, je sais pas si ça passe,
hein.
Mais là-bas sur la banquise, oui, c'est très très bon. Et le corps en redemande du gras de baleine, là, le derme de la baleine, on redemande de ça. Mais là, ce qu'a fait Brigitte Bardot et tout ça, ça a été un drame.
On va pas tuer des baleines.
Bon, pardon, on n'en tue plus beaucoup. Je pense qu'il y a des autorisations des tout petits quotas.
Bah, le narval, le beluga, c'est des baleines à dents. Hein. La corne du narval, c'est sa dent, son incisive gauche. Donc on chasse encore des baleines, mais comme vous disiez, il y a 57 000 habitants. Ils en chassent pas des masses. Et puis un narval, c'est très compliqué à chasser.
Alors, on peut vous développer un petit peu cette délicieuse gastronomie.
Oui, alors, sur le phoque, par exemple, il faut non seulement le manger, mais surtout le conserver et l'utiliser tout au long de l'année. Alors, il y a une recette qui s'appelle le kiviak. Alors, accrochez-vous bien. Alors, donc, ça, c'est un phoque qu'on a tué, évidemment, qu'on a vidé. Et dedans, on l'a rempli avec des oiseaux. On a eux aussi chassé avec des oiseaux. On les met à l'intérieur. On évite qu'il y ait de l'air. On remplit avec de la graisse.
Vous êtes sûr qu'on ne met pas un peu de crapaud avec ?
Non, des oiseaux, on remplit avec de la graisse. On referme tout ça. Et puis, on laisse fermenter. Et ça fermente pendant plusieurs mois. Et après, on l'ouvre et on le mange.
Voilà. Mais on mangeait du phoque en France au Moyen-Âge, hein, je vous signale. Et on avait ce même process de remplir un animal avec d'autres animaux et le farcir comme ça. Non, non, c'était un truc vraiment classique chez nous.
Alors, il y a des choses plus faciles et plus abordables. Hein. Par exemple, le soisat, qui est un plat très traditionnel, que là, je pense, on pourra tous manger sans trop de difficultés, c'est une soupe. Donc là, c'est une soupe un peu revigorante avec du riz, des oignons cuits longtemps et de la viande, en l'occurrence parfois de la viande de phoque. Mais ce que je veux demander à notre interlocuteur, c'est est-ce qu'on trouve beaucoup de restaurants finalement ? Est-ce qu'on va au restaurant quand on est là-bas au Groenland ?
Nicolas ?
Ben, en fait, ça dépend un peu où on est. Dans des grandes villes comme Ilulissat, il y a quelques restaurants, il y a une nourriture qui est très, je dirais, occidentalisée, danoise. Et après, si on veut manger traditionnel, ben, c'est plus en famille. Mais après, par exemple, moi, j'ai un ami, là, j'ai mangé chez lui il n'y a pas longtemps, et on mangeait du phoque et avec des frites. C'est marrant, c'est la première fois que je mangeais du phoque.
Un steak de phoque.
En fait, il m'a dit, si je ne fais pas de frites, mes enfants ne veulent plus manger de phoque. Et pour lui, c'était tellement important que ses enfants mangent du phoque qu'il a maintenant, il cuisine toujours son phoque avec des frites.
Ouais. Et les légumes, comment vous faites? Parce qu'il n'y a pas de légumes qui poussent là-bas.
Non, mais en fait, il y a plein de techniques. C'est ce que vous expliquiez tout à l'heure. C'est-à-dire que, par exemple, on va manger des intestins d'animaux, de perdrix, qui ont mangé, elles, du lichen, etc. Et donc, ils vont avoir quelques éléments dont on a besoin. Et puis après, on va trouver tous les nutriments dans la peau de la baleine, dans le gras de la baleine. C'est pour ça qu'il faut qu'ils mangent de la baleine, parce que c'est là où ils vont trouver tous les éléments que nous, on trouve dans les carottes, dans les salades, etc. Eux, ils vont le trouver ailleurs. Et c'est pour ça qu'il doit avoir cette nourriture diversifiée.
Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Olivier. On continue l'aventure dans un instant.
Prendre une tomate.
Et un concombre.
Et on continuera d'un point de vue pratique, parce que ça donne tellement envie d'y aller. Mais comment on fait pour y aller? Dans un instant, tous les détails avec Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet.
16h-18h. Et si on partait? Philippe Googler.
Et si on partait donc tous les jours entre 16h et 18h, un de ces voyages dont on peut se dire quand même, avant d'y aller, le Groenland, non,
faut pas oublier sa doudoune.
Oui, il faut pas oublier sa doudoune. Moi, je connais plein de gens qui me disent « Ah non, mais le Groenland, ça doit être beau, mais pas pour moi, c'est trop froid, c'est trop compliqué, je vais avoir peur, à qui je m'adresse, où je dors, comment je fais, j'aime pas dormir dans les tentes. » Voilà. Et comment on fait pour profiter de cet endroit exceptionnel?
C'est là que la question se pose. C'est qu'on peut, en théorie, on peut y aller par ses propres moyens. Parce qu'il y a effectivement des vols réguliers entre Copenhague et Nuuk, donc la capitale, on peut y aller par ce biais-là. Il y a des vols réguliers qui vous emmènent au Groenland. Mais après, j'aimerais dire, mais on fait quoi? Après, il n'y a plus d'infrastructure. Ou alors, il faut faire comme Nicolas Dubreuil, il faut affréter des avions, ça prend 5 jours. C'est vraiment pas pratique pour aller par ses propres moyens. Donc, il y a une solution qui est actuellement proposée à tous les visiteurs, à tous les passionnés de ce Grand Nord, c'est la formule croisière. Il y a vraiment des croisiéristes en France qui sont spécialisés dans les destinations polaires. Nicolas les connaît très bien parce qu'il en représente certains d'entre eux. C'est vraiment la formule la plus adaptée pour visiter, parce qu'il y a des excursions inter qui sont programmées tous les jours. Il y a des guides conférenciers à bord, il y a des spécialistes, il y a des glaciologues. Et bien sûr, ce n'est pas un paquebot avec 5000 personnes. C'est des petites croisières où il y a à peu près 200-300 personnes. C'est extrêmement bien organisé. Et bien sûr, le respect de l'environnement est la priorité de ces croisières. Donc ça se fait dans très bonnes pratiques.
On imagine que ça coûte très cher.
Ah, c'est le voyage d'une vie, on l'a dit.
Ah, c'est pas un voyage de routard.
Ah, c'est pas du tout le voyage de routard. C'est le voyage d'une vie, le ticket d'entrée, c'est minimum 5-6 000 euros pour les 8-10 jours de croisière. Mais c'est le voyage d'une vie, c'est le prix d'une moto.
Moi, je donnerais quand même un petit conseil pour ceux qui veulent y aller sans y aller par l'intermédiaire d'une croisière. Il faut prendre un vol pour Copenhague, parce que vous savez que le Groenland, c'est danois. Hein.
Oui, c'est danois.
Prenez un vol pour Copenhague. Ensuite, vous prenez un vol pour.
Kangerlussuaq,
et puis
ça.
Après un petit vol pour aller à Ilulissat, et là il y a des hôtels, et là le spectacle est incroyable, les icebergs dont je parlais tout à l'heure, c'est à cet endroit. Donc il y a des moyens d'accéder à certains endroits, mais c'est sûr que
c'est dommage de rester bloqué alors mais que avec la croisière on longe toute la côte ouest, et ça c'est magnifique.
Si on a 3 mois, on peut prendre les skis.
Faut d'abord bien s'entraîner avant, Olivier, je pense qu'il va falloir manger un peu plus de comté.
Nicolas, vous êtes toujours en ligne. Quel petit conseil rapide vous donneriez à celui qui veut venir jeter un coup d'œil au Groenland?
D'y foncer. Enfin, je rejoins effectivement. Je pense que la croisière, c'est ce qui est le plus adapté pour voir. C'est surtout parce que on peut aller à Ilulissat effectivement tout seul, mais des fois, ça va être un petit peu compliqué de voir tout ce qu'on veut. Je pense que être accompagné. C'est un pays qui est compliqué. C'est un pays qui est compliqué à comprendre, etc. Et ça vaut le coup d'être accompagné, au sein d'une croisière et de voyager par cet intermédiaire-là, d'avoir toutes les clés pour y rentrer. Évidemment, on peut y aller tout seul.
Jean-Bernard, qu'est-ce qui vous a plu, vous, dans ce nord glacé?
On a parlé du côté humain. Ouais. Moi, ça m'a vraiment fasciné, le mode de vie de ces bédouins de l'Arctique que sont les Inuits. Et j'ai trouvé que c'était pas si dur, pas si lourd que ça. Alors évidemment, on y était en été, il faisait pas si froid, mais j'ai trouvé par exemple les villages inuits, ils sont très colorés, ça contraste avec la rudesse de l'environnement minéral, on dirait des petites touches colorées de jaune, les maisons, c'est des couleurs bleues, vertes, jaunes, rouges, qui sont tanquées sur la roche, c'est des petites des espèces de confettis colorés qui sont dans cet univers minéral. Donc j'ai pas trouvé ça triste du tout. Il y a de belles rencontres qui sont organisées lors des excursions à terre avec ces croisières. On voit vraiment les Inuits, on échange un petit peu avec eux. On a même fait une partie de foot avec des jeunes, c'est sur un terrain un petit peu rudimentaire. On a perdu, bien entendu. Et puis on est invité à déguster ce qu'on appelle le café mic. C'est le seul mot de groenlandais que je connais. C'est le café. On peut partager le café dans une famille. Il y a plein d'échanges qui sont possibles comme ça et qui sont organisés par ces croisiéristes. C'est très très bien fait. Et j'allais dire, les Inuits sont contents aussi de nous rencontrer parce qu'ils voient quand même pas beaucoup de monde à part leur propre famille.
Très rapidement, l'excursion numéro un à ne pas rater pour vous.
Ah bah pour moi, c'est le glacier L'Équipe Sermia. C'est un glacier fabuleux parce qu'on a l'impression d'être face à une muraille qui fait 5 km de long. Et de temps en temps, il y a ces effroyables détonations. C'est le glacier qui est en train de vêler. C'est-à-dire, c'est des morceaux de glace qui se détachent. Ça fait un bruit de tonnerre. Ça me rentre par les tripes. C'est un spectacle et un son qu'on n'oublie jamais.
Ouais. Et ça fait peur.
Et ça fait peur en plus. Ouais.
Merci beaucoup Jean-Bernard. Merci les amis. Merci Nicolas. Pour ce super voyage dans ce Groenland incroyable. Dès demain, comme chaque soir sur Europe 1, on repartira. Vous pourrez remiser les doudounes car nous partirons en Grèce, la belle destination de la Méditerranée. Les îles grecques, pour moi, c'est le plus beau paysage d'Europe. On se donne rendez-vous demain à partir de 16h. Nous sommes en direct sur Europe 1.
Bonsoir Philippe.
Bonsoir Thierry Dagiral.
La Grèce après le Groenland, c'est pas mal.
C'est pas mal, c'est pour le contraste.
Si on partait, c'est tout l'été, ça, c'est dès 16h, c'est formidable de vous écouter, vous savez.
Ça me fait plaisir. Et vous partez dans le Jura, vous, ce soir en plus.
Exactement, tout à fait, vous êtes au courant de tout.
Tout.
Voilà, visite guidée dans le Jura et puis on va déguster aussi des belles choses dans le Jura.
Merci beaucoup.
À demain Philippe.
Thierry, à demain.
Place à l'info sur Europe 1 dans un instant.